Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier M. Patrick Barthet et La Pulpe de m'avoir invité à venir vous faire cette conférence ici. Vous parlez d'eau, c'est un sujet que j'aime bien. Donc, on a l'habitude de décrire la Terre, vue de l'espace, comme la planète bleue. Donc, parce qu'il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup d'océans, il y a beaucoup d'eau. Donc, on a l'impression que la Terre est riche en eau. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Et voilà une image qui est une image de synthèse, qui a été fabriquée par le service géologique américain, où vous avez, vous voyez la flèche là ? Bon, vous avez ici, dans cette boule qui est relativement petite par rapport à la taille de la Terre, on y aurait concentré toute l'eau contenue par la planète, c'est-à-dire les micropurées, d'accord ? Oui, alors, on a concentré, pour l'image, dans cette boule-là, la totalité des eaux de la planète, ce qui est, évidemment, on a asséché tous les océans, c'est pour ça que vous voyez une Terre qui n'aurait pas d'eau. Alors là, c'est l'ensemble de l'eau de la planète. À titre de comparaison, des quatre planètes qu'on appelle telluriques, c'est-à-dire les planètes terreuses, c'est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars, c'est quand même la Terre qui a proportionnellement la plus grande quantité d'eau. Donc on n'a pas beaucoup d'eau, mais on en a plus que les autres planètes. Mercure n'en a pas du tout, Mars en a eu autrefois, mais en a presque moins, et Vénus en a un peu. Alors ici, la petite sphère sur la droite, c'est l'eau douce. Parce que vous le savez bien, l'essentiel de l'eau stockée sur Terre, c'est de l'eau salée, c'est les océans. Alors ça, l'eau douce, bon, il y en a quand même vraiment peu. Et puis ici, si vous avez de bons yeux, vous arrivez à voir ce petit point blanc. Ça, c'est le volume d'eau douce non gelée. Parce que l'essentiel du stock d'eau douce sur la planète, c'est les glaces de l'Antarctique et les glaces du Groenland. Donc, mis à part cela, eh bien, il reste un peu d'eau douce. C'est celle que l'on trouve dans les aquifères dont nous allons parler, et c'est celle que l'on trouve dans les rivières, les lacs ou les mers intérieures. Donc, vous voyez que si on se limitait à réfléchir en stock, ça, c'est des stocks, eh bien, on pourrait dire qu'on n'a pas beaucoup d'eau sur Terre. Mais vous allez voir qu'on va vivre plutôt sur les flux. Alors, une petite parenthèse, je vais essayer d'aller vite. D'où vient cette eau sur Terre ? Je suis hydrologue, mais je suis aussi géologue et je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la planète. Et on se pose la question, d'où est-ce qu'elle vient cette eau ? Ce qu'on sait, par les théories, je dirais, cosmologiques, c'est que quand la Terre s'est formée initialement, elle était sèche. Il n'y avait pas d'eau. Donc la Terre est devenue, le petit volume d'eau qu'elle contient, est arrivé par un bombardement de quoi ? On pense aux comètes, Alors, vous avez tous entendu parler, probablement l'année dernière, de la mission Rosetta et de la petite sonde Philae qui est allée explorer une comète du système solaire qui s'appelle Churyumov-Gerasimenko. Et je vais rapidement vous montrer un peu la prouesse de cette mission-là. Voilà, la comète est partie de la Terre, ici, en 2005, elle a fait des tours et des tours autour des planètes du système solaire pour arriver à 300 millions de kilomètres de la Terre pour rencontrer cette fameuse comète que je vous ai présentée. Vous vous rendez compte l'exploit de pouvoir piloter ce petit instrument pour arriver à proximité de la comète après 10 ans de trajet. Et puis, l'idée, c'était que la sonde Rosetta, qui restait en orbite autour de la comète, allait envoyer un petit objet qui s'appelle Philae, dont voilà une image. Philae, c'était une espèce de sonde autonome qui était bombardée par la première et qui devait se poser sur la comète. Alors, si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir ici, dans les trois pieds de Philae, il y a des sortes de tire-bouchons. Et ces tire-bouchons, ils avaient pour mission qu'à partir du moment où la comète se posait, on allait la visser dans la glace de façon à ce qu'elle ne s'en aille pas. C'était la façon de la fixer sur la glace. Ça n'a pas bien marché. Alors, ça n'a pas bien marché, si bien que le trajet de Philae, la première fois, elle est arrivée sur la comète à une vitesse de, d'un homme au pas, c'est-à-dire à quelques 5 km/h. C'était quand même très lent. Hein. Et puis, au lieu de se visser dans la glace comme c'était prévu, elle a rebondi. Elle a rebondi et elle est remontée à peu près à 1 km d'altitude par rapport à la comète, parce que la gravité de cet objet aussi petit est faible. Donc l'attirance de la sonde par la comète est petite et elle est arrivée là. Et je dirais, on a eu une veine de pendu. Hein. Cette mission, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne, ESA. Elle aurait dû rebondir une deuxième fois et repartir et on ne l'aurait jamais revue. Hein. Et puis, il y a eu un coup de chance, c'est-à-dire que elle s'est heurtée à une espèce de bloc comme ça. Pardon. Elle s'est heurtée à une espèce d'excroissance. La surface de la comète n'est pas plate. Hein, et elle s'est coincée dans une espèce de fissure ici, dans la glace, enfin sur la glace de la comète, où elle est restée. Donc elle est restée depuis le novembre 2014 jusqu'à juin 2015. Et elle a fait des mesures expérimentales. Alors qu'est-ce qu'elle cherchait à déterminer ? Bon, il y a beaucoup de choses. Il faudrait avoir une conférence entière sur Rosetta pour comprendre tout ce qu'elle a fait. C'est très important pour la cosmologie. Mais on parle d'eau. Vous savez que dans le système solaire, il y a deux types d'hydrogène. Il y a l'hydrogène normal et puis il y a un hydrogène lourd qu'on appelle le deutérium, qui est un hydrogène stable. C'est pas un hydrogène radioactif. Et cet hydrogène stable est en très faible proportion contenu dans l'hydrogène de la planète. Et on connaît à peu près le pourcentage d'hydrogène deutérium par rapport à l'hydrogène total. Et on sait depuis quelques années que les autres planètes ou les autres objets du système solaire ont une signature isotopique, c'est-à-dire un pourcentage de deutérium différent de celui de la Terre. Donc l'idée, si l'eau de la Terre vient de bombardement de la planète au début de sa vie par des comètes, on devrait avoir à peu près la signature sur Terre que l'on trouve dans les comètes. Manque de bol, c'est pas ça du tout. La signature isotopique de l'eau de la planète Churyumenko est 2 fois plus riche en deutérium que celle de la Terre. Donc on ne peut pas dire que ce sont les comètes pour l'instant. Ça met en doute cette théorie qu'on enseignait nous dans les écoles, parce que ça marche pas, ça colle pas. Alors, une comète, c'est pas beaucoup. Il y a des milliards de comètes qui circulent autour de la Terre, hein, ou autour du système solaire. Donc une, c'est peut-être un accident. Malheureusement, il y a déjà eu une émission américaine il y a une dizaine d'années pour aller échantillonner la queue de la comète de Halley. La comète de Halley que vous connaissez tous, elle passe tous les 74 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et évidemment, quand elle arrive proche du Soleil, elle se vaporise. Et donc, si on envoie une sonde, une fusée qui passe à travers la queue de la comète, on peut échantillonner l'eau de cette fumée et voir si elle a le bon rapport isotopique ou pas. Et on avait déjà trouvé sur Halley qu'elle n'avait pas le bon rapport isotopique. Donc, pour l'instant, on ne peut pas jurer que c'est faux, mais disons que l'hypothèse des comètes qui auraient amené l'eau sur Terre est, disons, elle a du plomb dans l'aile. Alors, si ce n'est pas des comètes, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être probablement d'autres météorites. Peut-être des météorites pierreuses qui contiennent du fer et de l'eau, un petit peu d'eau. Et si on a suffisamment de bombardements, tout ça, ça se passe il y a 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire quand la Terre avait 100 millions d'années d'âge. Hein, et on a eu un intense bombardement par quelque chose. Et pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est probablement pas des comètes. Enfin, ça, c'est un peu d'histoire. Maintenant, on regarde l'eau que nous avons sur Terre et je vous ai montré les stocks, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'il y a sur la planète. Il y a une petite parenthèse qu'il faut faire, c'est que le stock total d'eau sur Terre est à peu près constant. Donc les boules que vous avez vues, il y en a toujours les mêmes, elles ne bougent pas. L'eau ne s'évapore pas et ne part pas dans l'espace. Contrairement à Mars. Alors pourquoi est-ce que l'eau pourrait partir dans l'espace ? C'est parce que la radiation solaire peut décomposer les molécules d'eau, hydrogène, oxygène, en hydrogène et oxygène. Et l'hydrogène est léger. Donc il n'est pas assez retenu par le champ de gravité de la Terre et il peut s'en aller. Alors, des physiciens ont calculé que en 4,6 milliards d'années, ce phénomène a fonctionné et que nous avons perdu à peu près 3 mètres d'eau. 3 mètres d'eau à comparer à 2800 mètres d'eau. Si la grande sphère d'eau que je vous ai montré tout à l'heure, je l'étale sur la planète, j'ai un océan qui fait à peu près 2800 mètres, mettons 3000 mètres d'épaisseur. Donc en 4 milliards et quelques d'années, nous avons perdu 1 pour 1000 de l'eau que nous avions. Donc ce n'est pas un problème. La Terre ne sera pas, je dirais, inhospitalière pour ses habitants par ce mécanisme-là. Ayons bien ça dans la tête, il y a toujours la même quantité, ou pratiquement, d'eau sur Terre. Alors, ce que je vous parle de flux, c'est que je vais vous décrire ce que vous connaissez bien, qui est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est quelque chose qui est simple. L'eau de l'océan en particulier s'évapore, s'accumule dans des nuages, ces nuages sont transportés par le vent, et puis ils retombent en pluie sur les continents et sur les océans aussi d'ailleurs. Et il y a d'ailleurs un peu d'évaporation qui se produit également sur les continents, qui repart dans les nuages et qui retombe. Pour vous donner un ordre de grandeur, les nuages parcourent en moyenne 1000 km. Un nuage se forme ici, il monte, il tourne 1000 km et puis il retombe en pluie. Donc c'est pas, ils font pas le tour de la Terre, les nuages, loin de là. Ils font un tout petit morceau avant de tomber en pluie. Et leur temps de transit est bref. Il reste environ une dizaine de jours, 9-10 jours dans l'atmosphère avant de retomber en pluie. Alors, ça, c'est le cycle de l'eau. Je vais vous en donner quelques chiffres, mais je voudrais vous rappeler un cycle de nouveau historique. J'ai peut-être un petit peu trop d'amour pour l'histoire, mais les philosophes grecs avaient compris le cycle de l'eau par ce qu'on appelle le cycle Père-Dessein-Somme. Ce cycle est surprenant, mais il n'est pas idiot. Les Grecs, les philosophes grecs avaient dit, bon, il y a deux mécanismes qu'on ne comprend pas, qu'il faut expliquer. Le premier, c'est que quand il pleut, on voit de l'eau qui tombe, qui ruisselle, qui vase des petits rigoles, des petits ruisseaux, et puis tout ça arrive dans les rivières et les fleuves, et tout ça coule. Tout le monde a compris. Il ne pleut pas pendant une semaine. Les fleuves continuent à couler. Il ne pleut pas pendant un mois. Pendant 6 mois, les fleuves continuent à couler. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus l'eau du ciel qui arrive et qui va dans les fleuves. C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Premier argument. Deuxième argument, les fleuves se jettent dans la mer sans arrêt. Ça coule, ça coule, ça coule, ça arrive dans la mer. Le niveau de la mer ne monte pas. Expliquez ça. Faites l'expérience ce soir dans votre baignoire, ouvrez les robinets, vous allez voir ce qui se passe. Si vous alimentez un plan d'eau par de l'eau sans arrêt, eh ben, ça va déborder. Alors, les Grecs, qui étaient quand même intelligents, ont dit, ben, c'est clair, ce qui se passe, c'est que l'eau de mer pénètre le long des côtes à l'intérieur des continents, c'est ma flèche rouge. Là, quelque part, à l'intérieur de la Terre, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais l'eau reprend de l'énergie et surtout se dessale. Et l'eau ressort dans les sources et dans les... Oh là là, qu'est-ce que je fais, moi? Je ne sais pas, moi. C'est rude, ce truc. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc, le cycle du Père Dessein-Somme est un cycle qui a survécu ou perduré, on pourrait dire, jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est deux savants, un Français qui s'appelle Perrault, qui a expliqué qu'il a mesuré le débit de la Seine. Et il a calculé combien de pluie il tombait à peu près en moyenne par an sur le bassin de la Seine. Et il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'eau qui tombait sur le bassin de la Seine que la quantité d'eau qui coulait dans la rivière. Donc il a dit, il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'eau de mer pour essayer d'expliquer la... Oui, on y est presque là. Voilà, on était là. Il n'y a pas besoin d'eau de mer pour expliquer que les fleuves coulent pendant qu'il ne pleut pas. Il y a suffisamment d'eau, elle doit être stockée quelque part dans la terre. Et puis celui qui a expliqué pourquoi le niveau de la mer ne monte pas, c'est Halley, le même qui a donné son nom à la comète de Halley, qui était un Anglais. Et lui, il a mesuré, en mettant des bacs par terre, il a mesuré combien d'eau s'évaporait par jour dans des bacs au bord de la mer. Alors il rajoutait tous les jours de l'eau dans son bac et il voyait, là, au bout d'un certain temps, combien d'eau il avait mis. Et il s'est aperçu, en faisant ce calcul sur une année pour la Méditerranée, qu'il s'évaporait beaucoup plus d'eau de la surface de la mer que l'ensemble de l'apport des grands fleuves qui apportent de l'eau en Méditerranée, c'est-à-dire le Rhône, le Danube, le Pô, le Nil, etc. Il avait essayé d'estimer tout ça, et il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de retour dans la terre de l'eau du ciel, elle s'évapore, et c'est pour ça que nous avons ce cycle de l'eau. Alors, Halley a donc justifié le cycle de l'eau, Père à Saint-Somme, avec Perrault, pour mettre ce cycle Père des Saint-Sommes aux archives, ceci étant, jusqu'au XIXe siècle, on l'enseignait dans les écoles françaises. Et puis petit à petit, on s'est mis au goût du jour et on a instancié le cycle Père à Saint-Sommes. Alors voilà quelques chiffres sur ce cycle. Vous avez donc les océans et vous avez ici le premier chiffre, c'est les précipitations en kilomètres cubes par an qui tombent sur les continents, tous les continents confondus. Alors, ce cycle, ou ce flux de pluie qui arrive sur les continents, eh bien, il se répartit en ce qu'on va appeler de l'eau verte et de l'eau bleue. Je vous définirai ces deux couleurs d'eau, pour l'instant peut-être une troisième si on a le temps, mais ça c'est quelque chose d'assez récent, c'est quelque chose qui a été défini, c'était compris, mais c'était pas défini, et c'est quand même une distinction extrêmement importante qu'il faut bien avoir à l'esprit. Alors vous voyez que le premier terme du bilan, hein, ça c'est la quantité de pluie, vous voyez que les deux tiers des pluies, c'est de l'eau verte. Alors c'est quoi l'eau verte? C'est de l'eau qui tombe à la surface du sol, qui s'infiltre dans le premier mètre ou le premier mètre 50 de profondeur du sol, et y est stocké par capillarité, ce que j'appelle l'effet buvard, c'est-à-dire le sol absorbe l'eau et la maintient. Et cette eau reste là, sauf si les racines des plantes l'extraient et l'amènent aux feuilles qui le transpirent. Donc l'essentiel de cette eau, c'est pour ça qu'on l'appelle verte, c'est parce qu'elle alimente directement la végétation naturelle, les grandes forêts, tout ça, végétation tropicale, mais aussi l'agriculture qu'on appelle pluviale. Quand on fait du blé ici, par exemple, ou une autre culture, eh bien, on n'arrose pas. Donc l'eau, elle vient d'où? Elle vient de l'eau verte, c'est-à-dire l'eau de pluie qui tombe, se stocke dans le sol, et la plante est capable de l'extraire par osmose et de la transpirer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'eau verte, et en revanche, l'eau bleue, c'est celle, je dirais, c'est celle que l'on voit, celle-là. C'est les écoulements dans les rivières, hein, c'est les écoulements souterrains, hein, et la somme des deux, ça fait à peu près 26 000, c'est-à-dire moins de la moitié, presque le tiers de l'eau verte, le complément étant un petit peu négligeable, c'est la fusion des icebergs, donc j'en parlerai pas. Donc vous voyez que la quantité d'eau principale que nous utilisons sur Terre, c'est cette eau, entre guillemets, presque cachée, qu'on appelle verte, et que la végétation sait utiliser. Mais nous autres, les ingénieurs, eh ben, on ne peut pas travailler là-dessus, on ne peut rien y faire à celle-là. Elle est dans le sol, et seules les plantes peuvent l'extraire. Nous, on ne peut pas aller la tirer avec des suceuses, ça ne marche pas. Donc le seul eau sur lequel on peut faire de l'ingénierie et faire de la distribution, faire des choses comme ça, c'est l'eau bleue. Donc on pompe dans les rivières ou on pompe dans les nappes et on va alimenter les besoins en eau de tous les jours. Il faut bien avoir à l'esprit que ces deux types d'eau contribuent de façon inégale, mais contribuent à satisfaire les besoins en eau de la planète. Alors, il faut distinguer, quand on va parler d'utilisation de l'eau, il faut distinguer deux notions. D'abord, le prélèvement. Le prélèvement, c'est quand on prélève quelque chose, quand on prend de l'eau dans une rivière, dans un lac ou dans une nappe souterraine. Et évidemment, c'est de l'eau bleue, puisqu'on ne peut pas prélever l'eau verte. Hein. L'eau verte, elle est fixée par capillarité, elle ne sort pas. C'est comme si vous voulez sortir de l'eau d'un buvard, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le chauffer et l'évaporer. Vous ne pouvez pas l'extraire. Donc c'est de l'eau bleue, elle est prise dans l'environnement et utilisée par l'homme. Alors en revanche, la consommation, c'est la fraction du prélèvement qui ne retourne pas dans l'environnement et ne peut donc pas être réutilisée et qui retourne donc à l'atmosphère. Je vous donne un exemple. Nous, à Paris, l'essentiel de l'eau que nous utilisons, c'est l'eau de la Seine, hein, l'eau de la Seine, de la Marne ou de l'Oise. Hein. Mais on n'est pas les premiers à l'utiliser. Toutes les villes en amont de Paris, par exemple Melun, Fontainebleau, Sens, Auxerre, Troyes, etc., eh ben, ils prennent de l'eau dans la rivière, ils l'utilisent, ils la rejettent à l'égout, elle est un peu traitée plus ou moins bien, et elle revient à la rivière. Donc vous voyez, elle n'est pas consommée. Quand vous vous lavez les mains, vous allez peut-être utiliser 10 litres d'eau pour vous laver les mains, et presque la totalité de l'eau que vous avez fait sortir du robinet, c'est un prélèvement, eh bien, elle retourne dans l'égout et elle retourne à la rivière. Donc elle n'a pas disparu, si vous voulez. La petite partie qui disparaît, c'est celle qui s'évapore. C'est donc si vous lavez du linge, évidemment, le linge est mouillé, ensuite on le fait sécher, donc ça repart à l'atmosphère. Si vous arrosez votre jardin avec cette eau, évidemment, les feuilles vont le transpirer et elle repart à l'atmosphère. Donc la distinction entre prélèvement, c'est ce qu'on pompe, et consommation, c'est ce qui est véritablement utilisé, vous verrez que c'est très utile de bien distinguer les deux choses. Et ceci, le fait que ce n'est pas les mêmes choses, ça permet de dire qu'on recycle en fait l'eau. Hein. Alors, là, je vais aller assez vite, mais on vous dit souvent qu'on est en train d'exploiter et de vider des stocks d'eau. Donc, je ne suis plus sur des flux, mais je suis sur des stocks. Et là, je voudrais vous donner deux types de milieux où on exploite de l'eau dans des stocks. Le premier, c'est les aquifères, des grands aquifères. Alors, ici, vous avez les aquifères, les grands aquifères du Sahara. Ça, c'est ceux de Libye. Ça, c'est aux États-Unis. Ça, c'est au Mexique. Ça, c'est en Amérique du Sud, autour du Brésil. Mais les gros, très gros préleveurs de stocks, c'est la Chine ici, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, etc. Alors, qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? On sait peu de choses. On sait peu de choses, mais là, c'est vrai, on ne vit pas sur les flux, mais on vit sur les stocks. Alors, voilà un tableau un peu compliqué. Vous avez les pays qui vident leurs stocks, qui vident leurs réserves, en quelque sorte, hein, dans l'ordre d'importance de leur prélèvement. Et là, vous avez la quantité totale d'eau pompée dans ces pays, 190 km3 par an. Et sur ces 190, 71, c'est des prélèvements trop important par rapport aux ressources. Les eaux souterraines, elles sont rechargées par la pluie. La pluie qui s'infiltre, elle finit par descendre dans les nappes et elle les recharge. Et donc, c'est renouvelable, ça. C'est de l'eau qui tourne et qui est renouvelée avec la pluie. Alors, quand on prélève dans une nappe plus que ce qu'elle ne reçoit, ben, le niveau de la nappe descend. Alors, l'Inde, c'est une catastrophe. Tous les niveaux de toutes les nappes sont en train de se tarir. Autrefois, les niveaux des nappes étaient environ à 5-10 mètres sous la surface du sol. Aujourd'hui, elle est à 30, 40, 50 mètres. Hein. Pareil pour la Chine, pareil pour un aquifère des États-Unis, le Pakistan, etc. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur de ces prélèvements en excès par rapport aux ressources. Alors, le chiffre quand même un peu inquiétant, c'est que si je totalise tous ces prélèvements en excès, eh bien, on arrive à peu près à 10% des prélèvements consommés pour l'irrigation. Donc, pour l'instant, moi, je vous dis qu'on vit essentiellement sur les stocks. C'est vrai à 10% près. Hein, puisqu'à 10%, eh bien, on est en train de vider des aquifères. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui sont là-dedans ? Un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Hein, on ne peut pas vider un seau plus que la quantité de ce que contient le seau. Donc, c'est ce qui se passe en particulier en Chine et particulier en Inde. Donc, ils vont arriver dans d'espace de 10 à 20 ans à avoir vidangé tous les stocks qu'ils avaient. Ils ne pourront plus se servir de ces eaux-là. Alors, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font ? Les Chinois, qui sont actifs et industrieux, eh bien, ils ont décidé de construire un transfert par canot de l'eau du Yangtze, qui est le fleuve alimenté par l'Himalaya, pour l'alimenter dans la région de Pékin. C'est à Pékin que les nappes baissent le plus vite à cause de l'intensité des prélèvements et puis le climat qui est beaucoup plus sec. Donc ils vont construire des canaux, en principe deux énormes canaux de plus de 1000 km de long chacun, pour amener de l'eau à Pékin. Et ceci coûtera deux fois plus cher que la construction du barrage des Trois Gorges. Les Indiens, qui sont quand même les premiers visés là-dessus, eh ben, ils ne font pas grand-chose, les Indiens. Ils ont un grand plan de relier entre elles toutes les rivières de l'Inde. Ils ont discuté pendant 20 ans pour savoir comment on allait le faire. Ils ne sont pas tombés d'accord. Ils ont commencé à faire la construction et les fondations de leur canal se sont écroulées parce qu'elles avaient été mal faites et pour l'instant, ils n'ont rien fait. Hein. Donc, ils vont se trouver mal très vite, les Indiens. Les États-Unis, ils se débrouilleront quand ils n'auront plus d'eau. Les autres pays, c'est un peu pareil. Donc voilà, là, vous avez un ordre de grandeur des excès de prélèvements pris sur les stocks par rapport à tout le reste qui est pris sur les flux. Certains auteurs disent que ce chiffre de 256 est estimé avec un facteur 2 en trop, donc ce serait plutôt 125. Ceci étant, il y a d'autres raisons de vivre sur les stocks, c'est les glaciers. Alors ça, c'est un peu différent, en ce sens que dans chaque grande montagne, ici vous avez l'Himalaya, ici vous avez les Alpes, ici vous avez les cordillères de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, et dans ces grandes montagnes, il y a des stocks de black glace. Là, on a mis les Alpes, etc. Il fait plus chaud à cause du changement climatique. Donc cette glace fond. Donc les fleuves qui drainent ces eaux de fusion, ils ont un débit aujourd'hui plus élevé que ce qu'ils auraient normalement. Hein. Par exemple, le Rhône débite actuellement en plein été 600 m3/s, alors que probablement s'il n'y avait pas cette fusion supplémentaire due au changement climatique, il y en aurait 400. Donc on bénéficie pour l'instant d'un Rhône qui est beaucoup plus alimenté dans l'eau, et d'un certain sens, cette eau, elle vient des stocks. Alors où c'est grave, c'est ici, c'est en Amérique du Sud. Parce que vous avez des pays comme la Bolivie ou le Pérou, qui ne vivent pratiquement que grâce à la fusion. Vous savez que le Pérou est un pays extrêmement aride, et ils vivent grâce à la fusion de leurs glaciers. Mais leurs glaciers, ils ne sont pas très hauts. Les montagnes des Cordillères des Andes ne sont pas à l'altitude de l'Himalaya. Il y a des piles à 4-5 000 mètres, mais pas à 7 000 ou 8 000. Donc cette glace fond à toute allure. Et dans 30 ans, ou moins de 30 ans, il n'y aura plus un seul glacier en Amérique du Sud, à cause du changement climatique. Ce n'est pas l'homme directement qui exploite la glace. Il utilise cette fusion de la glace, mais ce n'est pas lui qui l'a organisé, mis à part que c'est lui qui a fait le changement climatique. Et donc des villes comme La Paz, qui vivent actuellement avec beaucoup d'eau de fusion, se trouveront privées de cette ressource-là le jour où la glace sera fondue. Donc ça, ce sont les villes ou les endroits dans lesquels on vit sur le stock plutôt que sur le flux. Alors là, j'ai fait une estimation un peu au doigt mouillé, où je dis que la planète vit actuellement environ à 92% d'eau renouvelable venue du cycle de l'eau, et peut-être 7 à 8% d'eau fossile à partir des stocks dans les aquifères et les glaciers. Voilà à peu près d'où nous tirons l'eau que nous utilisons. Alors, une petite image qui est importante, j'y reviendrai là-dessus en fin d'exposé. Est-ce que l'homme est le seul utilisateur? Est-ce qu'elle est toute pour nous, l'eau? Eh bien non, bien sûr. Vous avez ici un animal qui est très heureux dans l'eau dont il dispose. C'est un éléphant dans le delta de l'Okavango, c'est au Botswana. L'Okavango, c'est un fleuve de l'hémisphère sud qui part à peu près de l'équateur et qui circule vers le sud à travers la Namibie avant d'arriver au Botswana, où il se perd dans une espèce de plaine dans laquelle il se répand. C'est un espèce d'énorme marécage et puis ça s'évapore. Et très peu d'eau de l'Okavango arrive à l'océan. C'est vraiment les années extrêmement pluvieuses où on a un peu d'eau qui va de l'Okavango à l'océan. Autrement, elle se perd dans ce delta. Alors lui, il est très content. Il est très content, il a toute l'eau qu'il veut pour se baigner, pour jouer, pour faire ce qu'il veut. Il a toute la nourriture, le foin qui satisfait, et il vit une vie heureuse. Il devrait se faire du souci. Pourquoi? Parce que les Namibiens ont une population qui augmente, on reviendra là-dessus tout à l'heure, et évidemment qu'il faut qu'ils nourrissent leur population, donc il faut qu'ils fassent de l'agriculture, donc il faut qu'ils irriguent. Donc ils vont prendre l'eau où? Dans l'Okavango. Les Namibiens est un pays très riche en ressources minérales. Ils ont des mines, ils ont des ressources, des métaux, etc. Ils exploitent ça, évidemment, pour nos téléphones portables, pour tout ça. Ils ont des métaux rares. Pour faire fonctionner ces mines, ils ont besoin d'eau. Ils apprennent où? Dans l'Okavango. Et puis, ils sont pas fous, les Namibiens. Ils ont dit, dites donc, vous autres, les Européens, là, vous aimez bien jouer au golf, non? Eh ben, on va vous construire des golfs. Nous, on a de l'eau de l'Okavango, on a des terres superbes, on a des paysages magnifiques, et ils construisent des golfs. En veux-tu, en voilà, pour nous, parce qu'ils ne jouent pas au golf, et ils les arrosent avec quoi? Avec l'eau de l'Okavango. Et lui, là, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Dans 10 ou 20 ans, il n'y aura plus d'eau dans l'Okavango. Elle aura été prise par nos amis namibiens pour les différents usages, j'en ai peut-être oublié, que je vous ai cités. Donc ça, c'est un symbole. J'aurais pu mettre un microbe, ça aurait été pareil. Il ne faut pas croire que l'eau du cycle de l'eau, l'eau que nous voyons dans l'environnement, elle est à notre disposition. Il faut toujours savoir que si nous prenons une goutte d'eau de plus que ce que nous faisons aujourd'hui, nous la prenons à quelqu'un. Ça peut être lui, ça peut être un animal beaucoup plus petit, ça peut être une communauté d'insectes, de plantes et d'écosystèmes complexes, mais je dirais que l'homme prélève dans l'environnement quelque chose que, s'il est prélevé par lui, n'est plus disponible pour les autres. Donc ne croyez pas que le cycle de l'eau, qui est quand même très riche en eau, est à notre disposition intégrale et que les écosystèmes se débrouilleront. Non, ils se débrouilleront si on leur en laisse. Si on leur laisse pas, ça ne marchera pas. Alors, un peu plus vite, je vais quand même accélérer. Où pleut-il sur Terre? Il pleut dans les zones tempérées que vous voyez ici. Il pleut énormément dans les zones tropicales équatoriales et vraiment très peu dans ce qu'on appelle la ceinture désertique que vous connaissez avec le Sahara, l'Arabie, etc. Et puis les déserts de Taklamakan et de Gobi en Chine et puis qu'on retrouve un peu dans les déserts du Mexique et d'Amérique du Nord. Alors, là-dessus, je passe. Je peux quand même vous parler de ça. Oui, je vais vous montrer ceci. Ça, c'est une image que je vais vous montrer, c'est la suivante, du débit du fleuve Niger. Voilà le fleuve Niger. qui prend ses sources en Sierra Leone et qui traverse le Niger, qui traverse le Mali et qui arrive jusqu'au Nigeria pour se jeter dans le golfe de Guinée. Alors on va regarder le débit du fleuve Koulikoro, du fleuve Niger à Koulikoro au Niger. Et voilà ce que ça donne. Vous avez ici à peu près 100 ans de mesure du débit moyen annuel du fleuve Niger entre 1900 et 1920, etc. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que pendant une vingtaine d'années ici, le débit du Niger était relativement bas. Pendant une quinzaine d'années, il est devenu haut, puis là, il est devenu bas, puis là, il est devenu moyen, et puis il est devenu extrêmement bas. Les gens de mon âge se souviendront de ce qu'on appelait la sécheresse au Sahel des années 70, hein, où le débit du Niger était très bas, ce qui veut dire que les pluies sur toutes ces régions sahéliennes étaient extrêmement réduites. Hein. Donc vous voyez que l'hydrologie, c'est pas un truc qu'on peut comprendre et gérer d'année en année. Hein. Il y a des cycles. Ça, c'est pas périodique. C'est pas tous les 11 ans, c'est pas tous les 15 ans, c'est pas tous les 25 ans. C'est aléatoire. Ça change. Hein. Et il faut bien savoir ça. On ne peut pas dire l'année prochaine, on aura autant d'eau qu'on a eu l'année précédente. Hein. C'est quelque chose qui est imprévisible. C'est un cycle. C'est pas du changement climatique. Hein. C'est le cycle naturel de l'eau. Et si vous relisez la Bible, vous verrez qu'on parle des 7 années de vaches grasses et des 7 années de vaches maigres. Depuis que la Terre existe, on a ça. Hein. Donc, les années difficile pour les ressources en eau de la planète, ça va être les années sèches. Et là, un prix Nobel d'économie qui s'appelle Amartya Sen a étudié les épisodes de famine du siècle passé, enfin du siècle du 19e siècle, et dans lequel il y a eu des millions de morts, hein, de faim, sur deux périodes simplement qui se sont passées ça. Ceci peut revenir. Ne croyons pas qu'on soit à l'abri aujourd'hui d'épisodes de famine global, ça s'était passé. Ce qu'il a étudié, c'est des famines qui se sont passées simultanément au Brésil, en Chine, en Inde et en Éthiopie. Donc vous voyez que tous les pays du monde peuvent, la même année, être soumis à la même contrainte, c'est-à-dire de changement du débit et des pluies et des systèmes. Donc voilà, ça, il faut avoir ça à la tête. C'est un problème grave que la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Alimentation, néglige. Il dit non, il pleuvra pas au Brésil, mais il pleuvra en Afrique et il pleuvra en Asie, etc. Donc c'est pas un problème. C'est pas vrai. Alors, réchauffement climatique, je vais essayer d'aller vite. Voilà un schéma qui est assez explicite. Il faut que je vous explique ce que ça montre. Vous avez ici en noir le climat actuel. Hein, cette courbe, c'est les précipitations moyennes. Alors c'est en millimètres par jour pour les mois de décembre et janvier. Pourquoi il avance tout seul, ce truc? Je vais me fâcher, hein, monsieur Barthet. Ça, c'est le climat actuel. Ça, c'est l'équateur. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est la quantité de pluie. Hein. Donc, il pleut beaucoup à l'équateur. C'est pour les mois de décembre, janvier, mais toute l'année, c'est pareil. Là, vous avez la ceinture désertique. Et là, vous avez là où on est, c'est-à-dire les pays tempérés, où il pleut relativement bien, et puis vous avez les déserts froids, c'est les pôles. Il peut très pleu sur les pôles, contrairement à ce qu'on peut penser. Alors, le changement climatique, en simplifiant énormément, ça fait ça. Ça, c'est moi qui l'a dessiné. La courbe noire, c'est des mesures. Et ces mesures, en moyenne, sur toute la planète. Là, c'est le climat futur, c'est ce que moi, j'ai compris de ce que disent les climatologues. Les climatologues sont des gens charmants, mais c'est des gens compliqués. Alors, quand vous expliquez le changement climatique, on n'y comprend en général rien. En tout cas, moi, j'y comprends pas grand-chose. Mais ce que j'ai compris, ce qu'ils disent, c'est ça. C'est que les zones climatiques vont se déplacer vers les pôles. Donc, vous avez la ceinture climatique désert chaud, ici, qui va migrer vers le pôle nord. Et de même, celle-là aussi. Donc, vous voyez, en fait, le désert remonte, si on peut dire. Alors, où est-ce que ça se retrouve? Ici, c'est l'endroit où, dans le futur, après le changement climatique, avec le changement climatique, il pleuvra autant hier que demain. C'est où, ça? C'est Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne. Vous êtes au sud de Saint-Étienne, il pleuvra moins. Vous êtes au nord de Saint-Étienne, il pleuvra plus. Alors, c'est Saint-Étienne, mais comme les climatologues sont des farceurs, oui, mais c'est Saint-Étienne, plus ou moins 1000 kilomètres, hein, donc ça veut dire qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien, et nous, Français, nous avons la malchance d'être dans la zone où on a le plus d'incertitudes sur la nature du changement climatique en matière de précipitation. En matière de température, c'est autre chose. Mais en matière de précipitation, on est juste à la frontière entre une zone où ça va pleuvoir moins et une zone où ça va pleuvoir plus. Alors, c'est probablement les derniers modèles, je vous en montre quelques-uns, vous voyez à peu près ça. Hein. Ici, les teintes rouges, ici, il pleut moins, c'est que le désert qui avance. Et puis, les teintes bleues, ici, il pleut plus. Hein. Donc, vous voyez, nous, on est vraiment au milieu, là. On arrive à l'endroit où ça va changer de couleur. Quoi. Donc, ça se confirme, mais ça va être difficile à gérer. Je parle pas de tout ça, c'est un peu trop long, c'est une autre échelle, c'est la même chose mais à l'échelle de l'Europe. On voit qu'il pleut plus dans le nord et il pleut moins dans le sud, ça change entre l'hiver et l'été. C'est l'été qu'on va souffrir, hein. C'est plus l'été que l'hiver où on aura des sécheresses importantes dans le sud. Et maintenant j'en viens aux besoins en eau. Donc là je vous essaie de vous montrer un peu une vision globale où il y a de l'eau, où il n'y en a pas. Vous avez vu qu'il y a des zones sèches et des zones qui ne sont pas sèches, ça va un peu changer à cause du changement climatique, mais grossièrement le bilan hydrique de la planète est quand même très riche. On a beaucoup d'eau. Je ne vais peut-être pas citer les chiffres, mais vous les avez vus. Il y a des dizaines de milliers de kilomètres cubes par an d'eau verte ou d'eau bleue qui circulent. Et nos consommations actuelles sont inférieures à 10 000 kilomètres cubes. Donc on n'est pas dans une planète sèche. On n'est pas sur Mars. Il y a de l'eau. Elle n'est pas répartie de façon équivalente, mais ça ne fait rien. Alors voilà un petit exemple de consommation d'eau qui me paraît très instructif. La Tunisie, c'est un pays qui est bien connu sur le plan hydrologique. Les Tunisiens sont d'excellents hydrologues. J'ai beaucoup de collègues dans ce pays qui travaillent très bien. Alors voilà quelques caractéristiques de la Tunisie. 164 000 km², 5 millions d'hectares dont 10% sont cultivables. En 2004, 10 millions d'habitants. Pluie, 220 mm par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, ici, à Tence, il doit pleuvoir à peu près entre 800 et 1000 mm par an. Donc c'est beaucoup moins. Mais ce 220 mm, c'est une mauvaise image, parce que ici, dans la Tunisie du Nord, il en pleut 500-600, et dans la Tunisie du Sud, il n'en pleut pas du tout. Donc la moyenne entre 600 et 0, ça fait à peu près 220. Donc ici, c'est très aride, mais ici, il y a de l'eau quand même, il y a un peu d'eau. Alors voilà. Voilà le bilan en eau de la Tunisie avec le même petit schéma que tout à l'heure pour l'ensemble des continents. Vous avez ici la Tunisie. Les pluies sur la Tunisie, c'est 36 km cubes par an. Et l'eau verte, c'est 31. Vous voyez que presque la majorité de l'eau est transpirée ou évaporée parce que l'évaporation est beaucoup plus intense en Tunisie. Il fait chaud, donc l'eau repart beaucoup plus à l'atmosphère. Et les écoulements, c'est la différence des deux, c'est 5 km cubes par an, c'est pas grand-chose. Alors, ces écoulements, c'est à peu près pour moitié-moitié du ruissellement dans les rivières, alors les ouèdes, si on parle là-bas, et des écoulements souterrains qui vont directement dans les rivières ou dans la mer. Voilà à peu près le bilan en eau de la Tunisie. Alors maintenant, on va regarder comment la Tunisie utilise son eau et les besoins. Alors, on va remplir ensemble ce tableau qui donne la population, ça on connaît, 10 millions à peu près, en 2004. Le point important, c'est ça, la demande alimentaire en équivalent en eau par habitant. Alors là, je vous montre un petit tableau dont vous entendrez peut-être parler quand vous aurez une conférence sur l'alimentation. Je crois que c'est dans quelques jours, monsieur Barthet, que vous avez... Ça a eu lieu. Alors j'espère qu'il n'a pas dit le contraire de ce que je vais vous raconter. Mais voilà la quantité d'eau qui est contenue dans les aliments. Alors je prends un chiffre simple et utile, c'est le blé. Le blé, il faut 1000 litres d'eau pour faire 1 kilo de blé. Alors c'est quoi cette eau? Si je faisais ici un petit carré de terre végétale et je sème du blé, et puis je l'arrose tous les jours, et je l'irradie par une lampe de façon à lui donner la lumière du soleil pour qu'il se développe. Et tous les jours, je devrais rajouter de l'eau dans mon bac de blé pour alimenter le blé en eau. Comme vous avez un jardin, il faut arroser. Et si je mesure la quantité d'eau que j'ai arrosée, utilisée pour arroser, pendant un an, et que je compare ça à la quantité de grains que j'ai récolté sur ma petite parcelle, j'arrive à ce chiffre. Il me faudrait 1000 litres d'eau pour 1 kilo de blé, ou 1000 mètres cubes d'eau pour une tonne de blé. Donc c'est beaucoup, c'est beaucoup d'eau. Et le blé, c'est pas le pire. Vous avez le riz, qui est plus important, 1500 à 2000. Les huiles, c'est plus exigeant, 5000. Le maïs, c'est moins mal. Ah, les pommes de terre. Si vous voulez sauver la terre pour son problème d'eau, mangez des patates. C'est très bien les patates. C'est très nourrissant et ça consomme très peu d'eau. Avec 100 litres d'eau, c'est-à-dire 10 fois moins que du blé, vous fabriquez des patates. Donc surtout ne les faites pas frire, parce que là vous allez consommer de l'urine et c'est mauvais pour la santé. Mais si vous mangez des patates bouillies à l'eau, c'est excellent, vous avez sauvé le problème de l'eau sur la planète. Alors, où ça devient moins drôle, c'est ici, les produits animaux. Alors je suis dans un pays d'élevage, donc je vais me faire incendier. Mais si vous mesurez combien d'eau il faut pour faire 1 kilo de viande de bœuf, il faut 13 000 litres d'eau. 13 000 litres d'eau, c'est-à-dire 13 fois plus que pour le blé. Alors, c'est un peu moins vrai, tout en étant vrai quand même, dans des pays de pâturage où vous êtes. Parce que les animaux, les bœufs, par exemple, ici, ils mangent de l'herbe. Mais dans l'essentiel de la nourriture pour les animaux de viande ou de lait en France, ils mangent du grain, on leur donne du maïs. Donc on alimente le bétail en maïs. Le maïs, on a vu qu'il faut 700 litres pour un kilo. Vous donnez un kilo de maïs ou de blé à un bœuf, il ne va pas faire un kilo de viande, il va faire 10, 20, 30 grammes de viande. Donc il y a une perte en ligne énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut 13 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de bœuf. La volaille, c'est mieux, les œufs, c'est pas mal, les moutons, c'est pas trop mal, le lait, c'est comme ça. Donc, vous allez voir que ceci est un point très important sur la consommation d'eau dans la planète, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mange. C'est le point important. Alors, maintenant, je connais à peu près ce que mangent les Tunisiens, et je sais qu'ils mangent du couscous, ils mangent un peu de mouton, un peu de poulet, quelques agrumes, de l'huile d'olive, etc. Et je sais, avec mon tableau, là, je sais calculer combien d'eau il faut pour nourrir un Tunisien. Et le chiffre est énorme. Le chiffre est énorme. C'est le chiffre qui est là. Enfin, vous arrivez à voir, c'est le deuxième chiffre. Le premier chiffre, c'est 10 millions d'habitants. Le deuxième chiffre, c'est 1450 mètres cubes d'eau par an et par habitant. 1450 mètres cubes d'eau, ça ne tient pas dans cette pièce. C'est beaucoup plus que le volume d'eau que l'on pourrait remplir dans ceci si c'était un réservoir. C'est énorme. 1400 mètres cubes d'eau pour nourrir une personne, avec les tableaux de conversion que je vous ai donnés. Alors, si vous voyez le deuxième chiffre en dessous, en jaune, 55. Ça, c'est la demande individuelle pour une personne. Non, c'est pas individuel, c'est pour l'ensemble de la Tunisie. Le volume total d'eau pour l'alimentation en eau potable et l'industrie. Il y a peu d'industrie en Tunisie. Mais vous voyez que l'eau, c'est-à-dire l'eau domestique, c'est de l'eau bleue, ça, c'est de l'eau qui sert dans les tuyaux et qui va être amené pour les maisons, pour la vaisselle, pour la buanderie, etc., la petite artisanat, c'est rien. 5%, en gros, moins de 5% de l'eau que nous consommons est utilisée dans des tuyaux, de l'eau bleue qui circule, etc. L'essentiel, c'est de l'eau agricole. Il faut bien avoir ça à la tête. Alors maintenant, je fais le total des deux et j'arrive en gros que la Tunisie a besoin pour vivre de... en 2004, de 15 km cubes, à peu près 15 km cubes par an, pour tous ces deux besoins, eau domestique et eau alimentaire. Et qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle a 2 de volume d'irrigation, eau bleue, et 8 d'eau verte, c'est-à-dire d'eau, donc je vous ai expliqué le cycle, qui sert à faire de l'agriculture dite pluviale. Vous avez vu que simplement 10% de la surface cultivée en Tunisie est en agriculture irriguée, le reste est en agriculture pluviale, c'est donc de l'eau verte. Alors la somme des deux, ça fait 8 et 2, 10. On a besoin de 15. Comment ils font les Tunisiens? Les Tunisiens, ils importent ce qu'on appelle de l'eau virtuelle, c'est ce chiffre qui est là, 4,5 km cubes par an. Et c'est pas de l'eau qu'ils importent, ils importent de la nourriture, du blé ou de l'orge, qui leur permet d'équilibrer leur bilan en eau. On va pas exporter de l'eau en bateau depuis Marseille à Tunis pour alimenter et faire pousser des végétaux en Tunisie, c'est absurde, ça coûterait beaucoup trop cher. Il faut 1000 fois plus de poids d'eau que de produits que l'on transporte, donc il vaut mieux transporter du grain que de transporter de l'eau. Donc ils achètent du blé et de l'orge, et avec ça, ils vivent pas mal, ils vivent bien. Alors, on passe en 2025. En 2025, ils sont plus nombreux, ils mangent plus riches, parce que là, c'était la quantité d'eau nécessaire pour nourrir un Tunisien aujourd'hui. Ils disent, en 2025, on mangera comme vous, les Européens. Et nous, on mange pour à peu près 1700 mètres cubes par habitant. Donc, si je multiplie tout ça, je fais un peu de changement climatique, etc., j'arrive que pour à peu près 50%, l'eau sera importés en Tunisie pour boucler le bilan. La Jordanie est à beaucoup plus loin. Aujourd'hui, la Jordanie est à 90% d'eau importée sous forme d'eau virtuelle. Alors, ceci est un petit transparent intéressant. En 1980 environ, le bilan en eau de la Tunisie était équilibré. Il était équilibré parce qu'ils étaient moins nombreux, 6,4 millions, et d'autre part, la consommation d'eau par habitant pour se nourrir n'était pas de 1450, mais de 1150. Pourquoi ça a augmenté depuis 40 ans ? Ben, parce qu'ils mangent plus de viande. C'est ça le facteur essentiel. Donc ils sont plus riches, ils mangent mieux, ils mangent plus de viande. Si on retourne à 1960, ils ne consommaient que 600 mètres cubes d'eau par an, par personne pour se nourrir. Donc vous voyez, la consommation en eau a fortement augmenté à cause des habitudes alimentaires. Et la modification des habitudes alimentaires, c'est essentiellement le fait de consommer plus de viande. Donc la croissance de la population et les changements de régime alimentaire ont rendu la Tunisie dépendante à 30% aujourd'hui de l'eau qu'elle importe par le biais d'aliments, mais on vit très bien en Tunisie. Alors je vous montre ici une carte qui a été faite par l'Institut de gestion des eaux de Sri Lanka de Colombo au Sri Lanka, qui est assez claire. Vous avez en bleu tous les pays où il y a assez d'eau. On ne se pose pas de problème d'eau. Oui, on peut s'en poser un peu quand même, mais disons qu'il n'y a pas de catastrophe. Vous avez en rouge les pays dont on vient de parler, la Tunisie est là, qui sont les pays désertiques, la ceinture désertique. Ben là, on manque d'eau et personne n'a assez d'eau, c'est clair et c'est connu. Et puis, vous avez vu, en Tunisie, personne ne meurt de faim. On importe de la nourriture parce qu'on a de quoi l'acheter et puis on la distribue et tout va bien. Alors, un petit bémol, il faut l'acheter cette nourriture. Les produits exportateurs, les pays exportateurs ne vont pas vous la donner gratuitement. Nous, les Français, on vend pas mal de blé aux Tunisiens, on ne leur donne pas. On leur donne un peu parce qu'ils ont une crise, mais disons, on ne va pas leur vendre toute l'année ou leur donner toute l'année du blé. Donc il faut qu'ils aient de l'argent pour la payer. Avec quoi ils vivent les Tunisiens ? Bon, ils ont quelques produits agricoles, comme des olives, des agrumes, choses comme ça, qu'ils nous exportent. Ils avaient un peu de phosphate, ils en ont encore, ils exportent ça. Ils ont un tout petit peu d'industrie textile, mais l'essentiel de leur revenu, c'est le tourisme. Ils avaient aménagé des grands hôtels, etc. Et avec ça, ils avaient des recettes de devises qui leur permettaient de manger. C'est avec ça qu'ils mangent. Avec les événements que vous connaissez, le terrorisme, le tourisme a connu une chute verticale, vertigineuse, et bon, ça repart un peu, mais enfin, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, ils sont dans une situation extrêmement difficile, et la Tunisie vit aujourd'hui bien, parce que le Qatar finance. S'il n'y a pas le Qatar derrière qui comble le déficit financier de la Tunisie, ils ne pourraient pas combler leur déficit en eau. Alors, la dernière zone sur cette carte, c'est la zone orange. La zone orange, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. En Afrique subsaharienne en particulier, ça, c'est la zone où il le pleut le plus sur la planète. C'est la zone tropicale équatoriale où il pleut énormément. Et bien, c'est là qu'on crève de faim. Où on crève de faim, c'est ce que ces gens-là appellent déficit économique en eau. Il y a de l'eau dans les rivières, il y a de l'eau dans les nappes, mais l'eau n'a pas été mise en valeur. Autrement dit, on n'a pas construit les équipements, c'est pour ça qu'ils disent un déficit économique, on n'a pas investi pour construire les barrages, les canaux, etc., pour amener l'eau là où est nécessaire et faire que les gens puissent vivre avec. Par exemple, au Burkina, pays que je connais assez bien, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont travaillé là-bas, il pleut 3 mois par an et 9 mois par an, il n'y a pas d'eau. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire comme agriculture pendant les 9 mois où il ne pleut pas ? Il faut stocker de l'eau dans des barrages et pouvoir cultiver quand il ne pleut pas. Donc, tant qu'il n'y a pas de barrage, il n'y en a pas un seul, ou extrêmement peu au Burkina, eh bien, on a des problèmes de faim. Donc, tous ces pays-là, ce n'est pas un manque d'eau, c'est un manque d'aménagement du territoire de façon à pouvoir utiliser de l'eau qu'on a besoin. Donc, surtout, ne confondons pas, la zone sèche est une zone où il manque énormément d'eau, ce n'est pas là où on meurt de faim, c'est ailleurs. Et les nombres sont épouvantables. En 2010, il y avait environ 1 milliard d'habitants de la planète, alors que nous sommes 7 milliards, c'est-à-dire 1 sur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Madame, vous ne mangez plus, je suis navré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. C'est scandaleux que sur notre planète, riche quand même, il ne faut pas exagérer, on laisse crever de faim ou manger beaucoup trop peu avec des déficits à la fois intellectuels et physiques des jeunes enfants liés à la sous-nutrition, c'est inadmissible. Et ça se poursuit. On était 800 millions l'année dernière. Bon, alors maintenant, on va passer à des choses plus amusantes. Oui, quand même, je vous montre ça. Alors maintenant, donc ayez bien ça en tête, la zone sèche, c'est pas un drame dans la mesure où il y a une population qui a les moyens financiers de s'alimenter en achetant sur la nourriture internationale. Je voudrais passer maintenant, si vous voulez, rapidement à l'alimentation de la planète. Parce que comme vous l'avez vu, c'est le problème important, le problème de l'eau, c'est ça. Et puis il y a l'eau potable, mais je ne sais pas si j'arriverai avec le temps que je me prends pour présenter le truc. Là, on commence à s'en rapprocher. Oui, on va parler donc de comment on peut alimenter la planète. Et ensuite, si on a le temps, on parlera un petit peu d'alimentation en eau potable. Voilà. Pour vous montrer que cette histoire de transfert d'eau virtuelle, c'est quelque chose d'important, voilà en 2009 la quantité de nourriture, que j'appelle de l'eau virtuelle, qui a été transférée d'un pays ou à un autre. Alors vous voyez les grandes flèches. Qui c'est qui exporte du grain? C'est surtout l'Amérique et le Canada, autrefois un petit peu l'Australie, et beaucoup l'Amérique du Sud. Et les grands pays importateurs, c'est l'Asie, l'Asie et puis l'Europe. On importe beaucoup d'aliments sous forme d'eau virtuelle, telle que je vous ai donné. 30% de la production agricole totale est transportée. Alors, demande mondiale en 2050 ou 2100. Voilà les prévisions de croissance démographique de la planète jusqu'en 2100, qui a été produite par les Nations Unies en 2014. Nous sommes par ici, on est un peu plus de 7 milliards. On devrait arriver à environ 9,5 milliards, 9,7 milliards en 2050. Ce qui est plus qu'on pensait. Il y a 5 ans, on pensait qu'on plafonnerait à 9,5 milliards et qu'après, on réduirait. Ce n'est pas ça du tout. On va arriver, qui ne sera pas encore le maximum, en 2100, à 11 milliards ou un peu plus, à 11,5 milliards. Alors, où ça monte? Ça, c'est l'Asie. L'Asie, elle arrivera à peu près au maximum en 2050 et après, elle redescendra. Nous, l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, on est les petits continents, moins inférieurs d'un milliard, donc on compte pas. Les gros bataillons, ils sont en Asie et en Afrique. Voilà, l'Afrique était à 1 milliard en 2000 à peu près, en 2010. Elle va passer à 2 milliards en 2050 et elle dépasserait 4 milliards en 2100. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Ce qui s'est passé en Tunisie est en train de se généraliser et c'est l'Afrique subsaharienne surtout qui monte comme ça, avec des problèmes que vous pouvez imaginer. Je vous fais une parenthèse. Le Niger est le pays dans lequel la croissance démographique est la plus intense. 7,2 enfants en moyenne par femme. Le Niger est le premier pays au point de vue de la pauvreté, c'est le pays dont le revenu est le plus faible par habitant. Et c'est le pays un des plus arides de la planète. Comment voulez-vous que ça marche? Actuellement, c'est la catastrophe au Niger. Et les enfants des écoles n'ont pas de maîtres pour les enseigner. Il y a beaucoup trop de jeunes et d'enfants par rapport au nombre de maîtres formés pour pouvoir faire de l'enseignement. C'est un pays qui court à la catastrophe. Et ce n'est pas le seul. Il y en a énormément dans l'Afrique subsaharienne qui ont un énorme problème de cette nature de croissance. Bon, alors les besoins en eau. Bon, je les ai traduits là, mais vous pouvez l'imaginer. Plus on est nombreux et plus on mange riche, eh bien, il faut doubler à peu près la quantité d'eau nécessaire pour alimenter la planète en 2100 ou la moitié en plus en 2050. Alors, comment on peut faire? Eh bien, on peut déplacer l'eau. C'est ce que je vous ai dit, ce que font les Chinois, les Indiens. Voilà ce que les Romains faisaient déjà il y a 20 siècles. Donc ça, c'est le transfert d'eau réelle. Les Américains l'ont fait. Vous savez que le Colorado alimente toute la Californie et toute l'Arizona et le Nouveau-Mexique. On peut déplacer de l'eau virtuelle. C'est ce que je vous ai raconté. On déplace la nourriture. Mais il y a une autre solution. C'est de déplacer les populations. Déplacer les populations. Si un continent devient suréquipé en matière de population, comme ça va se passer en Afrique, et qu'ils n'ont pas de quoi manger, qu'est-ce qu'ils vont faire? ils vont se déplacer. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que nous commencions, nous, peuple riche monétairement et en eau, nous avons beaucoup d'eau et beaucoup d'argent, on ne veut pas garder tout ça pour nous et les autres, laisser les autres crever de faim. Donc le problème des migrations, dont on parle énormément, je sais pas, je crois que vous avez eu une conférence là-dessus, non ? Ou vous l'allez la voir ? Bon, c'est un énorme problème social, sociétal, comment on fait, comment on accueille ces gens, etc. On ne fait que commencer d'en parler. Avec la croissance démographique dans un continent qui nous est proche, avec des gens qui parlent pour beaucoup notre langue, les demandes d'autorisation à migrer chez nous vont être mais incommensurables avec ceux que nous connaissons aujourd'hui. Comment on y répond ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un problème social, éthique et politique, mais c'est un problème sur lequel il faut à bras le corps le prendre par la main. Je vous ai dit que les barrages ont été peu construits en Afrique et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes d'eau. Nous, en France, chacun d'entre nous, nous avons 900 mètres cubes d'eau stockés dans un barrage qui a été construit essentiellement par EDF et la SNCF ou quelques régions pour l'alimentation d'eau d'irrigation. Mais enfin, on a quand même beaucoup d'eau. Les Américains, 5000. Hein, ils ont 5000 mètres cubes d'eau, chaque Américain, dans les grands barrages qu'ils ont construits dans le New Deal, dans les années 30. Hein. Les Africains, ils en ont 3. C'est ce que je vous répète. Hein. Sous-équipement en barrage, en canaux, en tout ce que vous voulez. Donc, il y aura des problèmes énormes parce qu'on n'est pas équipé. Il y a un barrage en Afrique qui est en train de se construire. C'est le barrage de Renaissance qui est en train de se construire en Éthiopie. L'Éthiopie est un pays qui est sur le Nil. Et le Nil alimente l'Égypte, vous savez, avec le barrage d'Assouan qui stocke les eaux du Nil et qui alimente toute l'Égypte. Les Égyptiens ont toujours interdit aux Éthiopiens de construire le moindre barrage, parce que s'ils font un barrage, l'eau n'arrive plus à Assouan. Donc les Égyptiens manquent d'eau. Donc depuis toujours, les Égyptiens disaient aux Éthiopiens, pas question, si vous construisez un barrage, on vient le détruire. Et puis il y a eu le printemps arabe en Égypte, et le président Moubarak a été remplacé par un président élu qui s'est appelé Morsi. Et les Éthiopiens ont dit, il y a un créneau là, il faut y aller vite. Et hop, dès que Moubarak a rendu son tablier, ils ont commencé à construire leur barrage. Et puis Morsi a pris le pouvoir. Et puis Morsi a dit, attention. Et je répète ce que disait Moubarak, si vous construisez un barrage, nous, on viendra le détruire. Et sur ces entrefaites, Morsi, qu'est-ce qu'il a fait ? Non, c'est pas Morsi, c'est le président suivant, Al-Sisi. Al-Sisi, il a acheté des rafales à la France. Qu'est-ce qu'il veut bien vouloir faire avec des rafales ? Eh bien, c'est pour détruire le barrage qu'ils sont en train de construire, puis qu'ils menacent depuis 100 ans de détruire les barrages. C'est pour ça que nous, Français, on sera responsables de la destruction du barrage de Renaissance s'ils finissent par le construire. Alors, heureusement, le président Al-Sisi, qui est quelqu'un de raisonnable, est allé voir le président de l'Éthiopie il y a exactement un an, en mars 2016, et ils ont réussi à trouver un compromis qui fait que les Éthiopiens ont obtenu l'autorisation de construire le barrage. Ce que dit le compromis est gardé secret, on ne le sait pas. Enfin, il y a probablement, ce barrage va faire de l'énergie aussi. Donc, il y a probablement vente d'électricité à l'Égypte, enfin, je ne sais pas. Il y a un deal là derrière qui fait que ça va marcher. Bon, alors j'en viens. Mais là, je voudrais vous parler de l'alimentation mondiale. Voilà. Donc, 7 milliards d'œufs aujourd'hui, on sera 800 millions, on sera, je vous ai donné les chiffres un peu plus ça. Comment est-ce qu'on est nourri ? On est nourri par 265 millions d'hectares irrigués, hein ? Pas beaucoup, hein ? Et 1300 millions, 1,3 milliard d'hectares d'agriculture pluviale, c'est-à-dire d'eau verte. L'agriculture irriguée est plus efficace que l'agriculture pluviale. Elle produit en général, elle produit un peu plus, 17% des surfaces irriguées produisent 40% de la nourriture. Alors, l'essentiel de la nourriture, c'est des céréales, hein, le maïs, le blé ou le riz. Hein, 700 millions de tonnes par an, 60% de la nourriture. Comment on va nourrir tout le monde ? Un problème qui se greffe à cette nourriture de tout le monde, c'est l'obésité. C'est pour ça que je vous ai dit, mangez des patates, mais mangez pas des frites. Parce que les frites, c'est catastrophique pour l'obésité. Et l'obésité est en train de devenir un problème mondial. Hein. Si les tendances actuelles se poursuivent, il y aura 3,3 milliards de personnes en surpoids ou obèses en 2030, c'est-à-dire demain. Donc ça entraîne des maladies, et ça c'est des problèmes énormes, des consommations d'énergie, de tout ce que vous voulez, qui est fondamentale. Donc il faut essayer de délimiter ça, enfin de limiter ça. Nous les Français, on n'est pas mauvais, mais il ne faut pas croire qu'on est bon. Hein. On a quand même une tendance à l'obésité qui augmente. Hein. Alors là, vous avez un tableau important, continent par continent. Le facteur dans lequel il faudrait multiplier la production agricole pour nourrir tout le monde. En moyenne, pour la planète, et je ne parle que de 2050, hein, il faudrait à peu près doubler la nourriture produite sur la planète, pas nécessairement dans les pays, sur la planète, pour arriver à satisfaire les besoins alimentaires de tout le monde. Mais le facteur varie suivant les régions. Il est de 2 en Asie, 2 en Amérique latine, 2 en Moyen-Orient, 3, plus de 3 en Afrique. C'est là où on manque crève de faim. Donc c'est normal qu'il faut augmenter beaucoup plus la production agricole en Afrique que ce que l'on fait aujourd'hui. Et puis nous, on pourrait s'arrêter de produire plus. Mais enfin, bon, dans ce tableau, ils ont prévu qu'on produisait plus. Alors pour produire plus, comment on fait ? Eh bien, il faut réduire le gaspillage, il faut augmenter la productivité, les rendements agricoles, et il y a deux choix, augmenter l'irrigation ou augmenter l'agriculture pluviale, hein, puisqu'on produit sur des terres irriguées ou sur des terres pluviales. Donc c'est l'une ou l'autre de ces deux solutions qui nous permettront de nourrir tout le monde. Alors perte alimentaire, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je vous dis quand même, ça c'est quelque chose qui est assez grave. Européens ou personnes des pays développés, nous gaspillons 30% de la nourriture que nous achetons. Donc vous, pas vous personnellement, mais n'importe lequel d'entre nous en France en moyenne achète des trucs, le stocke dans son frigo, l'oublie que c'est dedans, le ressort, ah là là, la date de préemption, la date de validité est périmée, clac, à la poubelle. 30%, c'est un scandale, 30%. Si j'avais le temps, mais je vous le raconterai tout à l'heure, j'ai une petite jeune fille qui était la copine de ma petite fille qui est venue déjeuner à la maison, elle voulait un yaourt. Bon, ma femme m'a dit, tu peux prendre un yaourt dans le frigidaire. Elle ouvre le pot de yaourt, elle trempe son doigt dedans, elle le goûte, oh, il n'est pas bon. Et clac, le pot de yaourt à la poubelle. Et il avait mis son doigt dedans une seconde, poubelle. Vous voyez, même les enfants, ils n'ont aucune conscience que la nourriture a une valeur et qu'il ne faut pas la gaspiller. Je ne fais pas de reproche à cette gamine qui avait 5 ans, mais si vous voulez, il y a quelque part un problème d'éducation ou de sensibilisation des gamins à des choses élémentaires. Moi, je suis d'avant la guerre. Hein. Je vous assure que pendant la guerre, on raclait son assiette jusqu'à la fin et avec le pain, on essuyait pour être sûr qu'il reste rien. Hein, parce qu'on avait faim. Hein. Maintenant, on n'a pas faim. Donc, on s'en fout, on gaspille. Et alors que 1 sur 7 d'entre nous, on ne mange pas à sa faim. Il y a des choses qui ne vont pas. Attends. Bon, c'est pas ça qui va nous permettre, mais c'est important de le savoir et de réduire ça. Bon, ça je vous en ai parlé, donc on arrive à l'agriculture irriguée, et l'agriculture irriguée, le rythme actuel de construction de retenues pour faire de l'irrigation est ridicule. On n'en fait plus. Alors, je vous le montre, on a construit des barrages à foison jusque dans les années 70-80, et depuis les années 80, on n'en construit plus. Pourquoi ? D'abord parce que ça coûte cher et ça rapporte peu, donc la Banque mondiale finance moins. Deuxièmement, nous autres, les Occidentaux, on râle comme des poux dès que quelqu'un fait un barrage, parce qu'on dit que c'est une catastrophe écologique. Et nos amis les écolos, que j'adore, eh ben, ils ont pris en grippe les barrages. Donc, tous ceux qui barragent, racontez-vous ce qu'on a dit sur le barrage d'Assouan. Racontez-vous ce qu'on a dit sur le barrage des Trois Gorges. Et il n'y a pas de scandale plus grand pour un écolo que de construire un barrage. Donc, on n'en fait plus. Donc, on ne fera pas d'agriculture pluviale, à moins qu'on change d'avis. Je suis dur, hein, mais je crois que c'est la réalité. Donc, il reste l'agriculture pluviale. Alors, l'agriculture pluviale, c'est très joli, mais il faut avoir de la terre arrosée pour pouvoir y cultiver dessus. Alors, vous avez ici les statistiques à l'échelle de la planète. On dispose de 1,6 milliard de surfaces cultivées. Je vous ai montré, hein, à peu près 1,3 milliard de pluviales et à peu près 300 millions d'irrigués. La surface totale cultivable de la planète, c'est environ 4,4 ici. Donc, on est à 40% d'utilisation des ressources cultivables. Donc, ce n'est pas une catastrophe. Il en reste de la terre. Mais, vous voyez que ce n'est pas pareil suivant les différents continents. L'Asie utilise déjà et ça c'est des valeurs pour 2000, 75 ou 80% de ces terres cultivables. Donc ils n'ont plus de terre, les Asiatiques. Ils ne peuvent pas augmenter la surface cultivée. Ils peuvent construire des barrages, ils vont le faire. L'Amérique latine, il y a très peu de cultures, donc 20%. L'Afrique et le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, 90%. Donc ils n'ont plus de terre, ces gens-là. L'Afrique subsaharienne, ils ont beaucoup de terre. Nous, on est à peu près dans les 50%. Hein. Voilà. On est à peu près, nous et les pays de l'ex-Empire soviétique, on est à peu près à 50% de nos terres cultivées. Hein. Parce qu'on a des forêts, parce qu'on a ceci, cela. Alors, maintenant, on fait des scénarios et je vous promets que dans les 3 minutes qui viennent, je m'arrête. Bon, alors, voilà, des scénarios. On prend les différents continents et on dit qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, là, on va augmenter les surfaces cultivées pour le peu qu'il en reste pour l'Asie. On va augmenter les rendements. Pourtant, les rendements asiatiques sont déjà bons. On va augmenter la production et si on fait tout ce qu'on peut en Asie avec ce qu'on a comme eau et comme terre, on s'aperçoit que le déficit d'alimentation exprimée en tonnes de céréales est d'environ 760 millions de tonnes de nourriture par an pour l'Asie. L'Amérique latine, il n'y a pas de problème. Le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, c'est pareil, déficit, on n'arrive pas. Hein. Et puis, les autres, ça va. Hein. L'OCDE, l'Afrique subsaharienne, etc., il n'y a aucun problème. Donc voilà, maintenant on fait un scénario, on dit, il manque de la nourriture en Asie, l'Asie, pour simplifier, va se trouver en 2050 dans la situation de la Tunisie aujourd'hui. Il n'y a pas assez de terre ou d'eau pour cultiver assez pour alimenter les Asiatiques. Et les Asiatiques, ce n'est pas 10 millions d'habitants, c'est plus de la moitié de la planète, c'est plus de 5 milliards. Donc c'est quand même un problème. Alors, comment on fait ? Ben voilà des scénarios. Un scénario qui est de dire, on a vu qu'il y a beaucoup de terre et peu de gens en Amérique latine, on va dire aux Américains latins, et les enfants, hein, il faut commencer à produire. C'est ce qu'ils font. Ils défrichent l'Amazonie et ils produisent de l'huile de palme, du tourteau de soja, et Dieu sait quoi. Hein. Donc il suffit de leur dire continuez et accélérez. Hein. Le Moyen-Orient est déficit, et nous, l'OCDE, on peut produire plus. Hein. Nous, Français, on pourrait produire plus, et d'autres pays d'Europe aussi. Et il en est de même pour les pays de l'ancien empire soviétique. Donc, ça, c'est des flèches qui sont simplement des symboles. Si on fait produire plus les gens qui peuvent le faire, l'Amérique latine et l'Europe et l'Amérique du Nord et l'ex-empire soviétique, eh bien, il y a assez de capacité de production pour nourrir tout le monde, c'est-à-dire combler les déficits de l'Asie et les déficits du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Voilà. Donc, on va augmenter ça, quoi. On va en faire plus. Bon, je passe là-dessus. Ça, soit dit en passant, si on veut faire aussi des biocarburants, bonjour les dégâts. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Est-ce qu'on veut manger ou est-ce qu'on veut faire de l'essence pour nos bagnoles ? Enfin, pas les deux. Hein. Et si, ceux qui racontent qu'avec des biocarburants, on va pouvoir régler le problème de l'énergie, c'est ridicule. Là, j'ai fait un scénario avec un demi-milliard d'hectares de terres cultivables que l'on convertirait à la production de bioénergie, on ne produirait que 8% des besoins énergétiques de la planète. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Il faut en faire un peu, c'est pas déraisonnable. Mais ne croyez pas que la bioénergie est susceptible de résoudre l'ensemble des problèmes d'énergie de la planète. C'est plus compliqué que ça. Bon, là je passe. Qu'est-ce qui se passe ? Le sol, en Asie en particulier, est le facteur limitant de la production alimentaire, pas l'eau. Il n'y a pas globalement de crise de l'eau sur Terre, mais une forte tension sur les sols. Et les écosystèmes, on revient à mon truc de tout à l'heure. Les sols cultivables, non cultivés aujourd'hui, ça veut dire qu'il pleut dessus, et s'il pleut dessus, il y a quelque chose, il y a une forêt, il y a la forêt tropicale, il y a la forêt équatoriale, il y a la forêt primaire, on parlait dans la voiture ce matin, de la forêt primaire, c'est ça. Ben, c'est des belles forêts, hein. Eh bien, il y en a d'autres aussi. Hein. Voilà des belles photos, tout ça, boum. On va tout couper. Hein. Voilà ce qu'on va faire. On va faire ce que ça, c'est Bornéo. Hein. Ils coupent tout ça et ils mettent de l'huile de palme et ils nous vendent de l'huile de palme pour nos besoins. C'est ça qui va se passer. Alors, autant n'importe le vent. Ça, c'est la forêt primaire boréale. C'est le nord du Canada ou le nord de la Scandinavie. Vous avez des belles forêts de mélèzes comme ça. On ne peut pas planter du blé dans des forêts de mélèzes aujourd'hui. C'est trop froid. En revanche, avec le changement climatique, ça va devenir suffisamment chaud pour que les mélèzes zouent et on plante du blé ou du maïs. Donc ça, il n'y a peu que la forêt équatoriale qui va souffrir. Il y a la forêt nordique qui va être consommée pour la nourriture. Gone with the wind. Et qu'est-ce qui souffre dans cette affaire? C'est lui. Donc si vous voulez, voilà ma conclusion, je reviens à cette image que vous avez déjà vue. Quand on va nourrir tout le monde, ça va être aux dépens d'augmentation de la surface cultivée, c'est-à-dire des terres cultivables, aux dépens des écosystèmes, et aux dépens des systèmes, c'est lui, mes amis, et tous ceux que vous pouvez imaginer. Etc. Donc le problème de l'eau sur la planète, en termes de quantité, est... On peut le résoudre. Il y a suffisamment d'eau sur cette planète. Il faut la déplacer d'une façon ou d'une autre. Je vous ai montré trois façons. On déplace les gens, on déplace la nourriture ou on déplace l'eau. Hein. Mais il faut trouver des sols cultivables. Et les sols cultivables, ils sont pour l'instant exploités ou utilisés ou adorés par les écosystèmes. Et que si les écosystèmes, eh ben, on les supprime, bonjour les dégâts sur la planète. Je vous remercie. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si vous avez des arguments contre, on peut se disputer. Hein.
Je ne vais surtout pas me disputer avec vous. Ah, j'ai une question. Vous avez parlé, l'image là, de l'éléphant dans l'Okavango. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des lois internationales qui régulent quand même la gestion de l'eau en amont, comme le cas de la Namibie, qui utilise l'eau pour faire des golfs ou pour faire l'extraction des minerais et qui prive comme ça le Botswana d'une ressource dont il a besoin? Et non. L'exemple que vous avez cité entre l'Éthiopie et l'Égypte, c'est aussi un casus belli, si je puis dire.
Écoutez, il n'y a pas de loi internationale. Les Nations Unies n'ont pas créé une loi qui empêche chaque pays de faire ce qu'il veut avec ses ressources. L'UNESCO a chargé un ambassadeur japonais d'essayer de développer des conventions internationales pour les pays qui sont à plusieurs sur la même ressource. Par exemple, vous avez un fleuve, je prends l'exemple de l'Euphrate ou du Tigre. Hein. Ben, les sources sont en Turquie et les utilisateurs, c'est essentiellement la Syrie et l'Irak. Hein. Bon, il est évident que les clés de la ressource, c'est la Turquie qui les a. En revanche, ils en ont besoin, les Syriens et les Irakiens. Donc, l'UNESCO a dit on va faire des conventions particulières pour permettre aux pays de se tomber d'accord et de laisser un peu d'eau à chacun. Ce n'est pas des obligations, c'est un encouragement des Nations Unies, de l'UNESCO, à faire ça. Alors, ça se développe, hein, mais ce n'est pas une règle. C'est comme le GIEC, le changement climatique. Personne ne peut imposer à la Chine, aux États-Unis ou à la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Hein. Il faut un consensus qui se construise, comme la COP21 a cherché à le faire, et sur laquelle les pays acceptent de s'engager. Mais il n'y a pas de loi internationale qui permette à une autorité suprême, qui serait les Nations Unies, d'obliger tel pays à faire une chose qu'il ne veut pas. Alors peut-être qu'il faudrait le faire, hein, mais attention, la difficulté politique d'arriver à une autorité mondiale internationale...
Oui, on a pas mal parlé à l'échelle mondiale. Est-ce que vous pourriez nous donner 2-3 infos par rapport à la France? Moi, j'entends souvent parler d'agriculteurs qui sont inquiets, notamment là dans le sud-est, zone, on va dire, Rhône, Drôme, enfin, vous voyez, le long du Rhône, le Var, etc. Donc, où ils parlent de plus en plus de sécheresse et de solutions par rapport à l'agriculture. Si vous avez 2-3 infos là-dessus.
Oui.
Et également, j'en entends parler, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond, le rôle des agences de l'eau dans cette histoire-là.
D'accord. Bon, alors je vais commencer par le rôle des agences de l'eau, c'est le plus simple. Les agences de l'eau, ce sont des structures qui ont été créées dans la loi sur l'eau de 1964 et qui sont des agences de structures financières. On les appelait autrefois les agences financières de bassin. Il y en a 6 parce qu'on a divisé la France en 6 grands bassins. Il y a le bassin du Rhône, où vous êtes aujourd'hui, et puis il y a le bassin de la Seine, et puis il y a le bassin du Rhin, et puis le bassin de la Loire, etc. Et à Dourgara. Alors, l'idée de ces agences, c'est un peu de gérer l'eau à l'échelle de ces territoires en mutualisant les ressources. Donc, qu'est-ce qu'elles font? elles ont décidé d'abord de taxer les pollutions, c'est-à-dire que quelqu'un qui rejette de l'eau usée, polluée, non traitée dans l'environnement, hein, dans les rivières en particulier, eh ben, il paye par mètre cube rejeté. Alors ça a été très lent à admettre, il a fallu que les gens s'y habituent. Au début, on ne payait pas beaucoup, maintenant, ça devenu bien cher. Et donc, avec cet argent que les agences récoltaient, ils aidaient les municipalités et les industries à construire des statuts d'épuration. Vous voyez, c'est un système de financement collectif, si on peut dire, des instruments dont on a besoin pour épurer les eaux. Alors ça, c'était le volet pollution. Et puis, il y avait un volet prélèvement. Si vous pompez de l'eau dans une rivière ou dans une nappe, vous devez payer un petit quelque chose à l'agence. Et quand il faudra créer un barrage, forer des puits, etc., etc., eh ben, on va puiser dans cet argent-là pour alimenter. Donc, vous voyez, c'est un système de taxes librement consenties, parce que chaque agence a ce qu'on appelle un parlement de l'eau, c'est le comité de bassin, dans lequel il y a des représentants de tous les... Il y a les élus, il y a les agriculteurs, il y a les industriels, il y a le public, etc. Et, en principe, on convient du montant de la taxe au sein de cette instance. Hein. Évidemment, l'État est présent, etc. Et puis, donc, on gère ça entre nous, et puis on fait ces aménagements qui font améliorer les choses. Pourquoi la qualité de l'eau dans les rivières en France est passée de quelque chose de détestable et de désastreux dans les années 60, c'est quelque chose qui n'est pas trop mal maintenant, c'est grâce aux agences, hein, par ce rôle financier et aussi d'incitation. Hein. Alors, le problème, c'est que les agences ont beaucoup d'argent. Elles récoltent beaucoup de fric comme ça. Quand vous dites beaucoup de fric et des gouvernements qui n'en ont pas, chut, les ministères, sous tous les gouvernements, ont fait des ponctions dans les budgets des agences, ce qui est dégueulasse. C'est de l'eau payée par les gens pour aménager leur bassin et faire quelque chose, et chaque année, cette année, on a payé 200 millions sur les taxes que nous avons librement consenties dans nos bassins pour alimenter le budget du ministère de l'Environnement. Hein ? Alors bon, il y a des gens qui râlent, personne n'a fait le scandale. Bon, enfin bon, ça c'est un petit détail. Donc voilà le rôle des agences. Mais ces agences sont véritablement les gens qui détermine avec les DIREN ou les DREAL ce qu'on appelle les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ils ont une vision de l'eau du bassin et ils disent il faut faire ci, il faut construire tel barrage, il faut préserver telle zone humide, il faut ceci. Donc c'est les gens qui ont développé une vision intégrée, cohérente de l'ensemble des ressources en eau et comment on la gère. Bon, alors maintenant vous vouliez que je vous parle de la France. Bon, en gros, si vous voulez, la France est assez riche en eau. Donc, nous n'avons pas de problème très important en eau. Évidemment, les pays du Sud sont plus arides que les pays du Nord. Mais, vous parliez du Sud-Est tout à l'heure. Le Sud-Est a fait quelque chose de remarquable, c'est qu'il a construit le barrage de Serre-Ponçon. Serre-Ponçon, c'est un énorme barrage qui se trouve sur la Durance et qui crée le plus grand lac d'eau douce artificielle de l'Europe. Hein. Donc c'est énorme. Il y a des réserves absolument énormes. Et si quelqu'un manque d'eau en France à cause du changement climatique, ce ne sera pas le Sud-Est. Parce qu'ils ont cet énorme barrage qui a été construit dans les années 60. J'étais jeune ingénieur, j'ai travaillé quelques jours sur la construction du barrage de Serre-Ponçon dans mes premières fonctions d'ingénieur. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'ensuite, il faut l'amener. Hein. Donc, il faut construire les tuyaux pour amener l'eau du barrage par le canal de Provence ou par d'autres, la distribution où vous voulez. Donc, il n'y a pas de vrai problème grave de manque d'eau dans le Sud-Est si on a construit les équipements pour l'amener. Si on n'en a pas, ben, il n'y en aura plus. Alors, évidemment, avec le changement climatique, le Sud-Est peut difficilement continuer peut-être à avoir une activité agricole aussi intense que ce qu'elle a aujourd'hui. Alors, dans le Var, ben, le Var, ils ont un certain nombre de lacs, il y a le Saint-Cassien, d'autres lacs qui permettent d'alimenter, mais si ça ne suffit pas, il faudra aller chercher de l'eau à Serre-Ponçon. Hein. Donc, c'est un problème d'équipement. Qu'est-ce que vous me posiez d'autre comme question ? C'est ça, à peu près ? Alors, moi, je vous en réponds pour une question que vous ne pouvez pas poser, c'est le Sud-Ouest qui est mal parti. Parce que le Sud-Ouest, d'abord, il n'y a pas d'aquifère. Il n'y a pas de nappe, donc on ne peut pas faire des puits et pomper, ou vraiment très peu. Les montagnes des Pyrénées sont basses, donc il n'y a pas de stock de glace. Et il va pleuvoir moins. Comme nos chers amis du Sud-Ouest détestent encore plus que nous les barrages, hein, parlons de comment il s'appelle, Sivens, hein, parlons de Charlas, hein, qui sont des grands barrages qui ont voulu être construits. Vous voyez, les gens ne veulent pas. Hein. Ben, moi, je les respecte. Hein, les gens ont leurs opinions. Ils disent, bon, on ne veut pas de barrage. Donc, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Alors, l'agence de l'eau Adour-Garonne, celle qui s'occupe du bassin d'Adour-Garonne, elle a fait un scénario qui s'appelle Adour-Garonne 2070, qui est intéressant. Elle a dit, attendez, mais des barrages dans les Pyrénées, il y en a déjà beaucoup. À quoi ils servent, ces barrages ? Ils servent à faire de l'électricité. Ils étaient initialement construits par EDF et par la SNCF pour faire de l'électricité pour véhiculer les trains sur les voies. Eh bien, ces barrages, nous, on les prend à EDF. L'électricité, vous le faites comme vous voulez, on ne peut pas le savoir. Hein. Et avec ça, on va pouvoir arroser et on va pouvoir maintenir un débit suffisant dans les rivières pour qu'il n'y ait pas de problème écologique. Donc, on vire l'objectif initial de la construction de tous ces barrages des Pyrénées pour faire de l'eau utilisée par les écosystèmes, de l'eau par les villes. Première, c'est les villes, bien sûr, alimentées en eau Toulouse, etc. Alimenter ensuite les écosystèmes, maintenir de l'eau dans les rivières en été, et puis un peu d'agriculture et l'industrie et l'électricité, zou. Alors, est-ce que ça va marcher ? C'est à voir, c'est un plan. Hein. Mais il y a des choses à faire. On ne peut pas pouvoir continuer comme ça, faire du maïs dans le sud-ouest, faire de l'électricité, parce que l'électricité, on la fait en hiver. Donc on vide les barrages en hiver. Quand il fait froid comme aujourd'hui, on a besoin de turbiner. C'est pas quand en été, quand il faut arroser le maïs, qu'on turbine. Donc vous voyez, il y a incompatibilité. Et donc il faut que quelqu'un décide qu'est-ce qu'on va faire dans ce bassin. Alors, sur le bassin de Paris, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, on va manquer d'eau. Et c'est pas dans le sud-est, c'est dans le sud, c'est dans le bassin de Paris, peut-être en Bretagne qu'on manquera d'eau.
Ma question, c'était aussi sur les alternatives aux barrages, en Afrique notamment. Si on fait pas de barrage, est-ce qu'il y a une autre solution possible ? Est-ce qu'on peut dériver les fleuves ? Est-ce que, voilà. Ou est-ce qu'on condamne les populations à être sous-alimentées ?
Écoutez, il y a d'énormes fleuves. Vous avez dit, il y a d'abord le Congo, il y a le Zambèze, il y a le Nil dont j'ai déjà parlé. Il y a beaucoup de d'Amérique dans l'Afrique australe. Si on est au voisinage de ces fleuves, on peut probablement directement pomper dedans. Hein. Il suffit de regarder l'aménagement de ce qu'on appelle le barreau de Languedoc. C'est ce qui a été construit dans les années 50-60 dans le sud-est. On a pris de l'eau dans le Rhône, entre Arles et Tarascon, et on a envoyé cette eau dans des carreaux, les canaux du barreau de Languedoc, hein, qui ont permis d'irriguer, ou qui auraient dû permettre d'irriguer tout le sud, tout le Languedoc, en fait. Bon, ça ne s'est pas passé parce que les Languedociens ont mieux à faire que de faire du blé et du maïs, ils font du pinard. Et il ne faut pas irriguer la vigne, donc ils ont continué à faire du pinard, et ils n'ont pas utilisé l'eau du barreau de Languedoc, qui a coûté à chacun d'entre nous une somme considérable, hein, elle est utilisée à 10%. Les équipements sont complètement sous-utilisés. Enfin, en Afrique, on pourrait faire les choses qui marchent bien en prenant directement de l'eau des fleuves. Mais quand vous êtes au Burkina, il n'y a pas beaucoup de fleuves. Il y a la Volta, et puis il y a le Niger qui n'est pas bien loin. Mais il n'y a pas de barrage, donc il n'y a pas de stockage. Il faut stocker de l'eau d'une façon ou d'une autre. Et là, il vaut mieux qu'essayer de construire des barrages et de conserver l'eau quand elle vient. Si vous voulez, c'est vraiment une question locale. Est-ce qu'il y a d'autres façons de stocker de l'eau ? Oui, on peut stocker de l'eau en faisant de l'alimentation artificielle dans des aquifères. C'est-à-dire les aquifères se remplissent tout seuls par la pluie, mais si on leur rajoute de l'eau par en dessus, hein, on fait des bassins d'infiltration, on augmente le stock. Et le Maroc a fait ça dans la vallée du Sousse. Ils ont, depuis 10 ans, ils réalimentent leurs aquifères et ils ont stocké 10 milliards de mètres cubes d'eau en sus de l'alimentation naturelle dans leurs aquifères. Donc là, c'est très peu développé. À part le Maroc, il y a très peu de gens qui font ça, mais ça, c'est une piste qu'il faut creuser. Hein.
Oui, est-ce que au lieu de construire des barrages, au lieu d'augmenter les surfaces, au lieu de est-ce qu'on pourrait pas remettre en question nos pratiques agricoles notamment sur par exemple quand on dit qu'il faut tant d'eau pour produire tant de kilos de maïs, on connaît des variétés de maïs qui ont besoin de moins d'eau que les variétés cultivées actuellement dans le sud-ouest. Ça, c'est une remarque. Et puis, j'avais une question à vous poser, c'est est-ce que vous connaissez le produit Polyter, qui est un hydro-rétenteur d'eau ?
Oui.
Et qui a été mis au point par un ingénieur agronome français, je crois, dont je ne me souviens plus du nom, mais qui permet à la plante d'utiliser et surtout de stocker l'eau carrément greffé à ses racines et de l'utiliser en période de sécheresse. C'est-à-dire que quand vous arrosez la plante, elle va prendre uniquement ce qui lui est nécessaire et le stocker en plus. Donc, ce qui permet une économie d'eau incroyable, extraordinaire. C'est-à-dire, quand vous donniez l'exemple du, je ne sais plus, pour impressionnant, du blé, pour un kilo de farine, il faut, je ne me rappelle plus de cet exemple-là.
Oui, un kilo, il faut 1000 litres d'eau.
Il faut 1000 litres, voilà, c'est ça, 1000 litres d'eau. C'est énorme. Avec un hydro-rétenteur d'eau, par exemple, eh ben, il en faudrait plus de 200 litres. Alors, mais déjà, est-ce que vous connaissez ce produit?
Oui.
Et puis, est-ce qu'on... Parce que bon, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je suis moi-même agriculteur, je m'intéresse à toutes ces histoires d'eau, de plantes. Je fais l'élevage de viande. Donc... Mais bon, voilà. Est-ce que vous pouvez me répondre?
Oui, alors on va essayer de serrer les problèmes. Je commence par Polytère, puisque vous avez l'air très intéressé par Polytère. Polytère, c'est effectivement un amendement, enfin quelque chose qu'on ajoute, qu'on introduit dans la serre, en le mélangeant d'ailleurs, et c'est quelque chose qui retient l'eau. Hein. Donc, quand il pleut, l'eau va s'infiltrer et se stocker dans ce produit, hein, et les racines des plantes vont être capables de l'extraire. Ça reste de l'eau verte, comme j'ai dit, et donc on va augmenter, si vous voulez, la capacité du sol superficiel à stocker de l'eau. Alors, où je ne vous suis pas, c'est que le blé, il a toujours besoin de ces 1000 litres d'eau par kilo. Simplement, le polytère, ce qu'il fait, c'est qu'il permet de stocker plus d'eau dans le sol, si bien que le blé ira le chercher. Hein. Mais c'est pas, le polytère ne fournit pas d'eau ou ne se substitue pas à l'eau. C'est simplement un élément pour stocker de l'eau dans le sol, au-delà de la capacité normale de stockage de l'eau par la porosité des argiles ou des roches qui constituent le sol. Donc, le polytère, c'est bien, c'est quelque chose qui marche, ça a été expérimenté. Où je ne suis pas convaincu, c'est sur, je dirais, l'aspect économique. Est-ce qu'on peut se permettre, on peut probablement se permettre d'utiliser le polytère pour des cultures style maraîchage, style arboriculture, peut-être pour la vigne, des choses comme ça, des produits à haute valeur ajoutée, on peut probablement payer le polytère parce qu'il faut finalement le renouveler de temps en temps. Ce n'est pas un truc qui reste indéfiniment. Hein. Donc il faut le renouveler, il faut le mettre en place, c'est assez cher à l'achat. Enfin, donc si vous voulez, ça ne résoudra à mon avis des problèmes que pour des cultures, j'allais dire de niche, mais des cultures de petite surface. Pour les grandes étendues, je vous l'ai dit, l'essentiel de la nourriture mondiale, c'est les céréales. Et pour les céréales, je crois que c'est trop cher. Hein, on ne peut pas se permettre, compte tenu du prix des céréales, d'utiliser des techniques aussi sophistiquées, aussi savantes. Hein. Alors, ceci étant, je vous rejoins complètement sur, je dirais, d'autres céréales que le maïs. Le maïs, c'est une plante très bien. Vous avez vu qu'il consomme moins d'eau par kilo produit que le blé. Mais cette andouille de maïs, c'est une plante de l'Amérique du Sud mexicaine et autres, ou Amérique du Sud, elle a besoin d'eau en été. C'est ça la catastrophe. Si elle faisait comme tout le monde, c'est-à-dire comme le blé, de se suffire d'eau de printemps ou d'hiver, ça irait très bien. Mais il faut l'irriguer en juillet, août, septembre. Et en juillet, septembre, il ne pleut pas ici, donc on est obligé de l'arroser. Donc la première chose à faire pour substituer au maïs, ce serait de mettre du sorgho. Le maïs sert à nourrir les animaux. Le sorgho est un autre céréale qui n'est pas alimenté pour l'homme. Enfin, on pourrait peut-être le manger, mais en tout cas, ça ne se fait pas. Mais le sorgho, il ne consomme pas beaucoup d'eau et il consomme son eau quand il y en a, c'est-à-dire pendant le printemps. Donc, il faudrait simplement dire d'un petit décret de la main, maïs fini, on ne finance plus. Parce que qui c'est qui finance le maïs? C'est l'Europe. C'est la PAC qui a incité les agriculteurs européens à faire du maïs. Si elle avait dit « je ne veux pas de maïs, je veux du sorgho », on aurait beaucoup moins de problèmes de barrages et d'irrigation, parce que le sorgho pousse sans besoin d'eau au moment où il n'y en a pas. Hein. Alors, il y a d'autres plantes, je vous parle du sorgho, mais on peut retrouver d'autres natures, d'autres céréales qui pourraient améliorer. Donc oui, il faut améliorer les techniques et les plantes. Je vous termine sur ce tableau-là que je vous ai pas montré tout à l'heure. Voilà la consommation en calories, exprimée en kilocalories par jour, de produits végétaux et de produits animaux entre les pays développés, les pays riches, les pays en transition et les pays en développement. Vous voyez que La grosse différence, c'est là. Produits animaux, on en mange deux fois trop. On pourrait se satisfaire de 500 kilocalories par jour. On est à presque 1000. Les pays en transition, ça va à peu près. Et en moyenne, les pays en développement sont inférieurs au minimum nécessaire. Donc voilà, quand vous parlez changer des modes et la façon de se procéder, il y a aussi qu'est-ce qu'on consomme. On consomme trop de produits animaux dans nos pays riches et pas assez dans les pays en voie de développement. Et donc ça, c'est une modification qu'il faudrait faire.
Oui, je voulais venir mais sur une question un peu plus terre à terre. On est en Auvergne-Rhône-Alpes et en fait il y a une problématique en ce moment. On souhaite développer beaucoup la production de neige artificielle avec des canons à neige mais d'une manière un peu pléthorique. Quel est l'impact en fait?
Alors, c'est une
au niveau
question,
de l'eau.
C'est une question que je connais pas très bien. Enfin, je vais vous dire ce que j'en ai entendu dire. Premièrement, effectivement, ça consomme beaucoup d'eau, puisqu'il faut alimenter ses casons, et puis on le fait plusieurs fois par saison. La neige refond, donc il faut en remettre. Ceci étant dit, je crois que la saison à laquelle on prend cette eau, il y en a quand même. C'est pas chercher de l'eau au moment où il y en a pas. C'est pas comme le maïs. Vous avez besoin de l'eau en hiver et de l'eau en général, il y en a quand même. Donc quand on est obligé d'utiliser des canons à neige, c'est que il a dégelé, donc l'eau coule dans les rivières, l'eau coule dans les nappes, et on peut pomper et prendre l'eau. Donc je ne crois pas que ce soit une catastrophe au point de vue, disons, du cycle de l'eau ou des ressources en eau de la région. Ce que j'ai entendu dire, c'est que il y a quand même un peu de pollution de cette eau, parce qu'on utilise des adjuvants qui empêchent que ceci ou qui facilitent que ça gèle, je ne sais pas, qui ne sont pas très bons. Donc il y a un petit aspect pollution que je connais vraiment trop mal pour pouvoir vous en parler, qui est peut-être préoccupant. Mais sinon, sur la quantité d'eau, je ne pense pas que ce soit véritablement très, très, très compliqué.
Voilà.